Il est 8h44 ici à Paris. Tout de suite, c'est la revue des journaux africains. Avec vous ce matin, Léa Boutin-Rivière, bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
À la une, 4 millions de personnes ont fui le Soudan.
C'est ce qu'ont annoncé hier les Nations Unies après plus de 2 ans de guerre civile. Et à ce triste chiffre, il faut en ajouter un autre, rappelle Al Jazeera. 10 millions et demi de personnes environ sont des déplacés internes. En 2 ans, loin de s'être atténuée, la violence s'est intensifiée, rappelle encore le titre, particulièrement dans la région occidentale du Darfour, aggravant la faim dans la zone. Et l'aide humanitaire largement insuffisante ne suffit pas par définition, d'autant que les convois sont parfois attaqués, comme lundi sur la route d'El Fasher.
Et la population fait aussi face à d'autres fléaux.
Dans tous les secteurs, la guerre entraîne son lot de catastrophes. Dans un autre article, Al Jazeera toujours pointe l'épidémie de choléra qui frappe le pays. Dans la région de Khartoum, de nombreux retournés ont commencé à tomber malades. Beaucoup d'entre eux s'étaient installés à Omdurman, en face de la capitale. La ville est rapidement devenue surpeuplée, se désole Al Jazeera, ce qui a entraîné une propagation accélérée du choléra. Au point, raconte un témoin interrogé par le journal, que de nombreux corps se décomposent dans le Nil ou dans ses environs, ce qui en retour aggrave encore la contagion, puisque le choléra se transmet via de l'eau contaminée. Les malades se précipitent ensuite dans des hôpitaux surchargés, aggravant encore le problème. Dans les médias aussi, le paysage est sinistre, et c'est cette fois The Sudan Tribune qui le dit. Autrefois épicentre du journalisme national, la capitale Khartoum abrite désormais des bureaux vidés de leur substance et des studios brisés. À l'exception de la radio et de la télévision nationale, tous les médias ont été réduits à des coquilles vides où résonne l'effondrement de ce qui fut une presse vibrante. Il y a bien sûr le coût financier des destructions et des pillages, les logiciels, le matériel perdu, les bibliothèques sonores, mais il y a surtout une chose inestimable, notre voix, notre présence, se souvient le directeur d'une radio populaire. Maintenant, il n'y a plus que le silence.
Dans l'actualité également, du mieux entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi.
L'opposant Martin Fayoulou a proposé lundi une rencontre avec le président. Ce dernier a dit oui et est même allé plus loin, relate actualité.cd, puisqu'il a salué le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par son adversaire. C'est en tout cas, s'étonne le potentiel, un changement radical de posture pour un chef politique dont l'intransigeance envers le pouvoir de Félix Tshisekedi a longtemps été caractéristique. Il est encore bien trop tôt, attention, pour parler d'alliance, analyse de son côté le correspondant de la Deutsche Welle en RDC. Mais tout de même, si cette rencontre a bien lieu, elle marquera un signe de pardon entre les deux hommes. Alors ce prélude au rabibochage montre-t-il, comme le pense le potentiel, la volonté de faire des concessions du président ? Aujourd'hui, Ofasso semble plutôt pencher pour le simple bon sens. Si Félix Tshisekedi accepte de rencontrer Martin Fayoulou, c'est bien que ce dernier a dit des choses sensées et qu'il est sérieux, croit savoir le titre burkinabé. Mais aussi peut-être que Félix Tshisekedi joue sa survie politique s'il ne saisit pas cette main de Fayoulou dont il a besoin de nos jours.
En tout cas, ce rapprochement, Léa, pourrait faire un perdant.
Un perdant du nom de Joseph Kabila qui a refait surface à Goma, dans l'Est, il y a quelques jours. Le potentiel estime en tout cas qu'il s'agit là d'un coup dur pour l'ancien chef d'État et sa posture belliqueuse. Le journal estime que Fayoulou fait au contraire preuve d'une approche constructive. Aujourd'hui, Ofasso ne dit pas autre chose lorsqu'il juge que l'opposant se pose en médiateur, là où, analyse cette fois le Point Afrique, Joseph Kabila intrigue, inquiète et divise. Il ne faut pas trop toutefois se perdre en conjectures. Pour l'heure, au-delà des déclarations politiques, rien n'a été décidé, fixé, organisé. Or, conclut la Deutsche Welle, ce n'est pas la première fois que Martin Fayoulou tend la main au président Félix Tshisekedi. Ce que la coalition attend donc, c'est la concrétisation de ce rendez-vous.
Léa Boutin-Rivière, vous revenez avec nous dans une demi-heure pour la revue de presse internationale. Et vous allez nous parler de l'Ukraine.
Oui, 3 jours après l'attaque de drones menée par Kiev contre des aérodromes stratégiques russes, les journaux internationaux font le bilan et jugent globalement qu'il s'agit là d'une humiliation pour Moscou. La presse se penche aussi sur le couple Trump-Musk qui va bien mal, vous l'entendrez.
Et on en parle à 9h15. À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et c'est aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce sur une nouvelle résolution réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire dans la bande de Gaza. Mais les États-Unis, alliés d'Israël, devraient mettre leur veto à cette résolution. L'enclave où hier encore 27 personnes sont mortes après que l'armée israélienne a ouvert le feu près d'un centre d'aide humanitaire. Ça s'est passé dans le sud du territoire. À la une également, ces chiffres de l'ONU, on en parlait à l'instant. Depuis le début de la guerre au Soudan, plus de 4 millions de Soudanais ont dû fuir leur pays. Premier pays à accueillir ces réfugiés, l'Égypte, avec 1,5 million de Soudanais sur son territoire. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium portés ce mercredi à 50% par l'administration américaine, mesure qui va frapper tout particulièrement le Canada, principal fournisseur d'acier et d'aluminium lancé par les États-Unis. La guerre commerciale lancée par Washington, ça va être un des gros dossiers sur la table du nouveau président sud-coréen. Lee Jae-myung a été investi ce matin et dans un tout premier discours ce mercredi, il a notamment averti que la montée du protectionnisme constituait une menace existentielle pour son pays, dont l'économie est fortement axée sur les exportations. Étienne Giros vient de publier 54 nuances d'Afrique aux éditions Télémaque. Depuis 11 ans, il préside l'association professionnelle qui regroupe les entreprises françaises opérant en Afrique. Et auparavant, Étienne Giros a travaillé 23 ans dans le groupe Bolloré. Aujourd'hui, il invite les quelques 5000 opérateurs français qui travaillent toujours sur le continent et qui emploient près de 700 000 personnes. À plus d'audace, il répond aux questions de Christophe Bobouvier.
Étienne Giros, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas d'accord sur tout, comme chacun le sait, mais ils sont d'accord pour dire que les entreprises françaises en Afrique profitent trop d'une situation de rente et qu'elles n'innovent pas assez. Alors pourquoi ça vous met en colère ?
Mais ça m'agace parce que ça ne correspond pas à la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une rente ? Une rente, c'est bénéficier d'une situation de monopole qu'on a créée soi-même pour obtenir des tarifs élevés et ne pas développer des progrès techniques, etc. Les grands groupes français et les entreprises de taille moyenne qui sont en France peut-être ont eu des situations de rente il y a 50 ou 60 ans. Maintenant, rien n'est plus faux que cela. Les entreprises françaises sont soumises à la concurrence. Je prends l'exemple d'un groupe que je connais bien, l'ancien groupe Bolloré, qui maintenant s'appelle en Afrique AGL, est en concurrence avec des opérateurs chinois, dubaïotes et d'autres régions du monde sur les ports. Le groupe Orange, qui est très important en Afrique dans la téléphonie, est en concurrence avec 7 ou 8 opérateurs mondiaux. Et s'il ne performe pas en qualité et s'il n'a pas des bons prix, je peux vous dire qu'il est battu. Et donc, c'est une erreur de croire que l'on est en position de monopole.
Mais franchement, Étienne Giros, est-ce que la compagnie Air France ne profite pas de sa position de monopole sur certaines lignes pour imposer des billets très très chers ?
Ça, j'avoue que ça peut arriver et que les billets sont chers. Et c'est une question souvent de permis et d'autorisation de slots qui doit être donné par les autorités africaines. Et on appelle de nos voeux l'ouverture de ces marchés car la communication entre les pays africains est très importante et effectivement, c'est trop cher.
Alors vous dites que les entreprises françaises restent très présentes en Afrique, elles sont plus de 5000, elles emploient 700 000 Africains pour un chiffre d'affaires
100 milliards d'euros, ce qui est beaucoup plus que tout le volume d'affaires que nous faisons avec les États-Unis ou la Chine.
Mais vous dites aussi que depuis le Covid de 2020, vous voyez des chefs d'entreprise français qui préfèrent renoncer à leurs projets en Afrique. Pourquoi ?
Renoncer ou ralentir ? Parce qu'ils sont confrontés à un ressenti du risque africain qui est élevé. Le départ de la France, dans des conditions compliquées, on va dire ça comme ça, du Sahel, les affaires de conformité avec le risque réputationnel ou le risque d'être traité devant les tribunaux, les questions de la corruption qui perdurent et la petitesse des marchés fait que les entreprises françaises y réfléchissent à deux fois avant d'aller sur place. Eh bien, notre travail, c'est de faire baisser le ressenti du risque en disant non, l'Afrique n'est pas plus risquée qu'ailleurs et deuxièmement, en disant petit marché deviendra grand. Une classe moyenne en Afrique arrive, la croissance démographique est là et ce continent est ouvert sur le monde.
Concrètement, Étienne Giros, vous racontez dans votre livre l'histoire d'une entreprise française implantée en Afrique qui réclamait son argent. Le ministre des Finances de l'État concerné lui a répondu « Je vous paye si vous me donnez 10% en dessous de table ». C'est ce qu'on appelle du chantage. Comment cette entreprise française s'en est tirée ?
Eh bien, elle s'en est tirée parce que c'était un grand groupe qui avait les reins solides. Elle a attendu, elle a discuté avec les bailleurs de fonds, elle a rendu public, non pas dans la presse, mais à certaines personnalités, cet état de fait. Et finalement, au bout d'un an, et demi, ça a été réglé. Mais une entreprise de taille moyenne qui ne peut pas tenir un an et demi, et qui a les emplois en cause, va quelquefois soit être obligé de partir, soit être obligé de céder. Et donc, tout ça pour dire que, je sais que peut-être certains ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, et je pense que les entreprises dans les affaires de corruption, elles sont davantage victimes qu'opératrices.
Alors, un groupe français bien connu, le groupe Bolloré, pour lequel vous avez travaillé, est visé par la justice française qui le soupçonne d'avoir acquis frauduleusement la gestion des ports de Lomé et de Conakry. Est-ce que le groupe est plutôt victime ou plutôt coupable?
Ça, moi, je ne vais pas prendre parti, vous imaginez, sur ce dossier dont la justice n'a pas encore rendu ses conclusions, donc je ne peux pas répondre à votre question, franchement.
Et cette affaire judiciaire, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Vincent Bolloré a vendu toutes ses activités africaines en 2022 à l'armateur italo-suisse MSC?
Non, je ne suis pas mandaté pour expliquer les motivations du groupe pour son départ d'Afrique dans les domaines du transport. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Moi, je crois que c'est simplement un arbitrage d'actifs. Et ce groupe, qui est un groupe puissant, qui évolue beaucoup, a décidé d'orienter sa stratégie d'une manière différente et de quitter les transports, puisqu'il a vendu, certes, ses activités de transport à MSC en Afrique, mais il a aussi vendu ses activités de transport monde à SMA-CGM. Donc, ça n'est pas l'Afrique qui était visée. Je pense que c'était simplement une réorientation stratégique. D'ailleurs, ce groupe conserve sa présence en Afrique dans le domaine des médias, puisque Canal+, qui appartient à ce groupe, est en cours d'acquisition du grand opérateur de télévision payante sud-africain qui s'appelle MultiChoice, énorme acquisition sur toute l'Afrique australe. Et deuxièmement, il déploie la fibre dans une dizaine de pays. Donc, je pense que ça n'est pas un signe de désintérêt de l'Afrique, c'est plutôt une orientation stratégique.
Étienne Giros, merci.
Le patron des opérateurs français en Afrique, Étienne Giros, auteur du livre 54 nuances d'Afrique, publié chez Télémac, qu'il répondait à Christophe Boisbouvier. Maman, un petit rappel avec vous, il est important de dire qu'au Gondwana, la vie syndicale est très réglementée.
Oui, contrairement aux rumeurs malveillantes propagées par les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile, au Gondwana, il y a des règles à respecter, mais aussi et surtout des règles pour taper sur les doigts des gens qui ne respectent pas ces règles-là. Il y a des droits et des devoirs, dont le droit de devoir se tenir et marcher droit. Bref, c'est un pays carré avec les quatre côtés égaux et des coins qui piquent et font très mal. La très très démocratique République est un pays pensé et dessiné par un logiciel sophistiqué. Ce n'est pas un pays ouya ouya, hein, un pays n'importe quoi fait de yama yama. Par exemple, n'importe qui ne peut pas se lever un beau matin et dire qu'il va faire grève. Il y a d'abord une condition sine qua non à remplir, la majorité. Eh oui, d'abord, majorité au sens majorité présidentielle. Vous ne pouvez pas décider de faire une grève qui va enquiquiner la majorité présidentielle, mes amis. C'est-à-dire, par extension, Son Excellence Président Fondateur. Pour faire grève au Gondwana, il faut que la majorité présidentielle soit d'accord. Parce qu'il y a des grèves qu'on peut autoriser et des grèves que c'est même pas la peine d'y penser. Par exemple, les enseignants. Ils ont l'autorisation de faire grève, les enseignants, quand ils veulent. Président Fondateur n'en a cure. Voici des gens qui ne rapportent pas un dollar aux caisses de l'État, au contraire même. Hein. Voici des gens qu'on entend tout le temps, partout. Des gens qui ont des vacances à gauche et à droite et qui ne sont jamais contents. Eh ben du coup, au Gondwana, ils peuvent faire grève comme ils veulent, eux et leurs élèves étudiants, là. Ça ne dérange pas du tout notre leader bien-aimé. Il en rigole même. Mais dès que ça l'énerve, ben il envoie s'en foutre la mort et ses gars mettre de l'ordre dans tout ça, à coups de matraque et de gaz lacrymogène dans les amphis et les dortoirs. Ensuite, il y a l'autre notion de majorité, l'âge. Vous le savez tous, en très très démocratique république, c'est président fondateur qui décide qui est majeur ou mineur. Et donc, naturellement, comme partout dans le monde, t'as pas le droit de faire grève si t'es mineur, mon ami. C'est normal, logique et sans appel. Et ce n'est pas parce que tes petits camarades et toi pensez souffrir de l'inflation, de la cherté de la vie, que vous pouvez continuer comme ça, vous mettre en grève en prenant en otage tout un pays et surtout toute une majorité présidentielle et par extension président fondateur. Vous êtes mineur. Donc, avant toute chose, vous devez demander l'autorisation à votre tuteur, c'est-à-dire la direction de votre société, même si elle vous doit beaucoup, beaucoup d'argent, 13e, 14e mois, prime, etc. Votre direction, c'est votre tuteur légal. Vous pouvez pas faire grève tout seul, même si vous avez des leaders syndicalistes. D'ailleurs, ceux-là, on va les poursuivre pour détournement des mineurs que vous êtes. Voilà, en résumé, pas de grève parce que t'es mineur, mon ami, et surtout si ça embête notre leader bien-aimé et la majorité présidentielle. À demain.
À demain, maman. RFI, vous restez bien avec nous. Dans deux minutes, le grand journal international.
L'exposition Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac explore l'une des missions ethnographiques les plus emblématiques et revisite les conditions de collecte et les récits de cette traversée de 14 pays africains. Ces contre-enquêtes interrogent les enjeux mémoriels et scientifiques. Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête à découvrir jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Plus d'informations sur quaibranly.fr en partenariat avec France Média Monde.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Le rap a gagné, écrit Mehdi Maizi. En 200 pages, il raconte 50 ans de l'histoire de ce genre musical passé de l'underground au sommet de la musique mondiale. Mais tout a changé depuis les origines, de la poésie à l'ego trip, de la critique sociale aux succès commerciaux. Le rap est pluriel.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Cette année, le Festival de la Charité sur Loire a rimé avec la Série Noire. En célébrant les 80 ans de la célèbre collection à travers plusieurs rencontres autour d'auteurs phares comme Dashiell Hammett ou Hervé Prudhon, des moments forts à retrouver dans un grand reportage enregistré sur place.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.